podcasts de Radio Vatican.
Ce 1er août marque le 100e anniversaire de la lettre du pape Benoît XV adressée aux chefs des peuples belligérants du premier conflit mondial. Ce document, bien que sans effet sur le moment, a tracé les grands axes d'une diplomatie pontificale tournée inlassablement vers la paix et qui permettra finalement au Saint-Siège de bénéficier d'une reconnaissance internationale croissante tout au long du XXe siècle. Benoît XV demeure pourtant un pape méconnu et parfois oublié. Le 3 septembre 1914, au moment même où l'Europe s'apprêtait à vivre l'une des pires déchirures de son histoire, Giacomo della Chiesa était élu pape de l'Église universelle et prenait le nom de Benoît XV. Diplomate de formation, en fonction au sein de la secrétaire d'État puis en Pologne, il avait conscience de ce qui était en train de se jouer sur les champs de bataille du nord de la France et dans l'ouest de la Russie, tout comme son prédécesseur Pie X avant lui. Sa première exhortation apostolique, Ubi Primum, avait été publiée dès le 8 septembre 1914 pour appeler les belligérants à déposer les armes sans résultat. Pourtant, Benoît XV n'a pas ménagé ses efforts durant les 4 années suivantes pour appeler à la raison les gouvernements européens impliqués. En 2014, à l'occasion du centenaire du déclenchement de la Grande Guerre et de l'élection de Benoît XV, Xavier Sartre était revenu sur l'action de ce pape avec Marcel Launay, professeur émérite à l'Université de Nantes, historien et auteur de Benoît XV, un pape pour la paix, publié aux éditions du CERF.
Cette diplomatie commence par deux temps. D'abord, dans un premier temps, le pape va essayer d'avertir les populations de ces périls qui lui courent à propos de ce déclenchement de la guerre mondiale dans son encyclique Ad Beatissimi du 1er novembre 1914, où il dénonce évidemment la guerre et les conséquences tout à fait néfastes qu'elle peut entraîner. Il tente, à Noël 1914, d'imposer une trêve qui d'ailleurs ne sera pas suivie. Dans un deuxième temps, à partir de 1915, il entreprend des négociations plus ou moins secrètes par l'intermédiaire, par exemple, de ses nonces à l'étranger, avec une crainte en particulier qui est celle de voir l'Italie rentrer en guerre. Alors, pour le problème italien, les choses se compliquent parce que nous sommes toujours dans le conflit à propos de la cité du Vatican et la reconnaissance de ce qui sera plus tard le futur État du Vatican. Or, l'Italie ne veut absolument pas entendre le fait que le Vatican soit associé de quelque façon à la paix. D'ailleurs, en 1915, il y aura un traité qui est le traité de Londres, dans lequel il est bien précisé qu'au congrès de la paix future, s'il existe, eh bien, le Vatican sera absolument exclu. Alors donc, c'est un handicap sérieux pour l'action future. Alors, à partir de 1917, il y a à Munich, puis ensuite à Berlin, un nonce qui est le futur cardinal Pacelli et qui va essayer, dans la mesure du possible, d'obtenir des satisfactions de la part des Allemands et des Austro-Hongrois. D'autant plus que le Vatican craint que la monarchie d'Habsbourg s'effondrant, il y aurait des problèmes évidemment en ce qui concerne tout ce contexte géopolitique. Finalement, comme ces négociations n'aboutissent pas, elles butent sur la question de l'Alsace et de la Lorraine, sur les terres irrédentes en Italie, le pape va décider, en août 1917, de rédiger, de publier une note sur la paix, dans laquelle il demande, d'une part, un désarmement réciproque. Il convie les alliés à essayer de s'entendre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le pape n'est pas entendu. D'un côté comme de l'autre, on lui reproche d'être trop partial, alors que sa politique a toujours été d'être l'impartialité totale du Saint-Siège.
En effet, pour les Français, il est le pape des boches. Pour les Allemands, il est au contraire le pape des Français. Le président des États-Unis, Wilson, n'a cure de ses appels. C'est un échec à chaque nouvelle tentative, à cause des blocages des différents gouvernements, ce qu'il vit très douloureusement, selon Marcel Launay.
Les efforts du Vatican sont sérieux et il y a de relais par l'intermédiaire des différents noms, mais on peut dire qu'il y a un système de blocage. Blocage du côté de l'Italie, blocage du côté de la France, il ne faut pas l'oublier, les relations diplomatiques ont été supprimées. Donc il y a là aussi des difficultés qui paraît sur le moment insurmontable. Malgré des efforts qu'il a faits pour essayer de faire comprendre, il semblerait bien entendu que le fait qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques entre Paris et Rome est joué évidemment dans un sens tout à fait négatif. Alors il faut indiquer tout de même qu'après la guerre, en 1921, il y aura une reprise de ces relations puisque après l'élection de la Chambre Bleue Horizon, des négociations sont entreprises entre la France et Rome pour le rétablissement de ces relations. Mais entre 1917 et 1920, il n'y a donc pas de relations.
Principale puissance catholique dans ce conflit, l'Autriche-Hongrie. Malgré les bonnes relations qu'entretiennent Benoît XV et l'empereur Charles à partir de 1916, les tentatives de l'un et de l'autre n'aboutissent pas non plus.
L'empereur l'empereur Charles est d'abord quelqu'un de très catholique, et la crainte du Saint-Siège, c'est que cet empire des Habsbourg s'effondre. Or, le Saint-Siège va buter sur deux obstacles. D'une part, la question de l'Italie est évidente, que les Autrichiens ne veulent pas céder. Et puis, d'autre part, le fait qu'il y a une pression, par contre, de la part de l'Allemagne sur son allié autrichien. Si bien que Charles Ier, malgré ses efforts, et la correspondance le prouve, va se heurter, va buter contre le veto allemand. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un échec.
L'activité diplomatique de Benoît XV semble un échec sur toute la ligne. Pourtant, rétrospectivement, le Saint-Siège a obtenu, grâce à la Première Guerre mondiale, une reconnaissance diplomatique sans précédent dans l'époque moderne, même si elle a tardé à se manifester.
Le message du pape Benoît XV n'est pas entendu. Lui, ce qu'il veut, c'est une paix chrétienne qui soit fondée sur des relations apaisées. Et d'ailleurs, un obstacle qu'il rencontrera en 1919, c'est ce que lorsqu'il y aura la conférence de la paix, le Vatican ne sera pas représenté malgré ses efforts pour y siéger. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que à partir de ce moment-là, il y a la question de la naissance de la Société des Nations. Et au départ, il y a une certaine méfiance du Saint-Siège, mais finalement, Benoît XV, à la fin de son pontificat, insistera sur le fait qu'il y a là un élément important pour pouvoir jouer justement sur des relations apaisées. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les relations diplomatiques avec la France, la signature de concordats avec pas mal d'autres pays qui amènent quand même à la fin du pontificat une certaine reconnaissance, je dirais, du rôle international du Saint-Siège. Malgré des échecs qui sont évidents, il y a là quand même une avancée par rapport au pontificat précédent. Le Saint-Siège sort, je dirais, de certains isolements. Les tempéraments des papes, évidemment, sont différents. Or, le pontificat de Pie X est marqué, évidemment, par des préoccupations qui, je dirais, sont essentiellement spirituelles et qui concernent surtout l'Église catholique, avec évidemment une moindre attention sur les relations internationales. Même si, à la fin du pontificat de Pie X, la guerre est déclarée, il semblerait bien que là, de ce point de vue-là, le Saint-Siège n'ait pas cette audience que finalement le pontificat de Benoît XV apportera, mais tout à fait à la fin du pontificat.